Sur la web rock station Vinny Times, le classic rock radio chaque mardi soir. Et le Budge Rock, en tout cas, nous enchante avec ses belles stories. Bonsoir, Budge.
Bonsoir, Harlaï, et bonsoir tout le monde.
Ouais, sommes-nous une page algérienne?
Non, on vient des Maldives.
C'est bien voilà. Ça. Ok, merci, Budge. Ça, donc, il s'agira donc en continuité avec la story sur Van Halen.
Exactement. Et pour cette fois, je me suis mis un album de Steve Hackett, un des fondateurs du groupe Genesis, avec cet album Genesis Revisited, où il reprend justement des titres de la période, sorti en 95. C'est un artisan d'une des plus belles périodes artistiques du groupe, un guitariste au doigté unique qui avait pour habitude d'utiliser le taping, technique qu'Eddie Van Halen a justement popularisé. Steve Hackett, c'est un de ces guitar-héros dont on parle peu, tout comme de la première période de Genesis. J'en parlerai un jour de ça aussi. Mais en attendant, reprenons le cours de notre histoire. Nous sommes en 84, année de sortie de 1984 de Van Halen, un album fait dans la douleur des tiraillements créatifs entre les membres du groupe. En effet, après le critiquement faiblard Diver Down, album moitié reprise, moitié compo original, Eddie Van Halen décide de construire son propre studio d'enregistrement, le 5150, code utilisé par la police américaine pour alerter d'une évasion d'un hôpital psychiatrique, qui va très bien au gars de la bande à Eddie. Durant les sessions d'enregistrement, les esprits s'échauffent et les tensions sont vont grandissantes entre Eddie et le reste du groupe, mais aussi entre Eddie et David Lee Roth. La sortie de l'EP solo de Diamond Dave et la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il quitte le groupe. Pas démonté pour autant, les membres restants cherchent un remplaçant ou une remplaçante. Ils sollicitent Patti Smith du groupe Scandal et non la Patti Smith penchant féminin de Neil Young. Elle refusera le poste, tout comme Daryl Hall du duo pop Hall and Oates, ainsi que Ginny Barnes, chanteur australien du groupe Cold Chisel, qui faisait aussi partie de la shortlist des possibles remplaçants de Ian Gillan dans Deep Purple en 89. Ces noms ont circulé, tout comme l'idée folle de faire un album avec des invités prestigieux comme Phil Collins, Mike Rutherford, Joe Cocker, Eric Martin ou encore Pete Townshend. Mais le gros souci, quand on songe à faire un album pareil, sera de gérer les emplois du temps de chacun, afin de ne pas trop perdre de temps. Mais ce sera finalement Garagiste de Van Halen, qui bricole aussi la voiture de Sammy Hagar, qui conseillera à ce dernier de contacter Eddie, puisqu'il n'avait pas encore trouvé un chanteur. Après 20 minutes de répétition, le courant passe bien et Sammy est engagé. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'on conseillait à Eddie de voir Sammy Hagar. Ted Templeman, le producteur du groupe, leur avait déjà soufflé ce nom en 77. Le fameux nom Van Hagar circulait aussi à l'époque. Comme quoi, rien n'arrive par hasard. La nouvelle est annoncée aux MTV Awards, à l'époque où cette cérémonie avait plus ou moins du sens. C'est à partir du printemps 86 que commencent des sessions d'enregistrement pour le nouvel album. Un des premiers titres de travail sera Best of Both Worlds, qui n'a pas plu apparemment et qui sera finalement renommé 5150, en hommage à leur studio. Mais ça sent le code pour dire que David Lee Roth devrait être pris en charge dans un hôpital psychiatrique. Il y a toujours une peur quand on apprend un remplacement dans un groupe. Par exemple, quand AC/DC avait engagé Brian Johnson, une grosse majorité des fans hardcore n'ont pas du tout apprécié. Mais avec le temps, tout le monde s'est rendu compte que c'était le meilleur remplaçant possible. Même chose pour Steve Morse qui avait intégré Deep Purple. Entre les jets d'eau et les insultes, ce sera Richie Blackmore qui lui apportera son soutien, calmant les esprits. Autre changement qui a provoqué des remous, le casting d'Arnel Pineda en remplacement de Steve Perry au sein de Journey. Alors même jusqu'à des relents racistes du fait des origines philippines du chanteur. Et pour Van Halen, le changement a certes troublé les fans, mais cela n'a pas empêché cette nouvelle formation, ce nouveau groupe, de faire un malheur avec 51-50, un album résolument plus poussé dans l'utilisation du synthétiseur Et il faut dire qu'en 86, c'est une ribambelle de groupes de heavy qui sort coup sur coup des albums qui usent et abusent de cet instrument. La même année, c'est Iron Maiden qui nappe pratiquement tout son album. Somewhere in Time, c'est beau. Mais il manque un truc. Même chose pour Turbo de Judas Priest. Enfin, le résultat est moins catastrophique que l'album qui suit, dont j'ai même oublié le nom. Pas la peine de m'en rappeler déjà. Le succès est donc là. Un album qui voit aussi la participation de Mick Jones, guitariste des Foreigners, à la production. Mais une grande cause du désamour des fans pour Sammy Hagar est le fait qu'il avait des difficultés à reprendre les morceaux de David Lee Roth. Ainsi, pour la tournée de soutien de 51-50, c'est l'album entier qui était joué. Et en plus d'un ou deux titres de Hagar en solo. Une reprise de Led Zeppelin, mais seulement deux titres de la période Roth. Malgré tout, la période Hagar sera couronnée de succès, avec l'album suivant, How You Hate One Two, titre hommage à la série des années 70 Taxi, mais aussi une réponse à l'album de David Lee Roth, Item and Smile, où on retrouve Steve Vai à la guitare. Tout se passe bien donc pour cette formation qui sortira quand même 4 albums studio et un live. Période faste pour le groupe, qui va connaître un gros désaccord puisque Sammy Hagar n'est pas du tout content parce que le groupe va participer à la bande originale du film Twister de Yann Debant. Outre les séances d'enregistrement tendues et un changement de manager qui leur conseille d'ailleurs de travailler sur un best-of, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. En plus du fait que le nouveau manager, Ray Daniels, penche pour un best-of n'incluant que les chansons de l'ère Roth. L'idée d'un best-of partagé entre les deux périodes, gardé comme plan B. C'en est trop pour Hagar qui préfère partir. Hagar parti et le travail sur la compilation commencé, David Lee Roth contacte Eddie Van Halen pour parler de tout ça. Le courant passe à nouveau bien. Et pour la promotion du best-of, le groupe se réunit tout d'abord au MTV Music Awards. Rien ne se passe comme prévu. Eddie est exaspéré par l'attitude de Diamond Dave pendant la cérémonie. Et la conférence de presse où il laisse croire que le groupe originel se reforme pour un nouvel album et une tournée future. Ce que Dave ne sait pas, c'est que Van Halen a déjà commencé à travailler avec Mitch Malloy, qui rejoindra plus tard Great White. Le best-of est un succès, mais David Lee Roth ne fait plus partie du groupe, tout comme Malloy. Le résultat est insatisfaisant pour la Warner. Van Halen recherche un chanteur et ce sera Gary Cherone, du groupe Extreme, qui travaillera sur le 3. Un album qui sort avec une grosse promo, mais qui ne convaincra pas. Malgré quelques titres sympas, comme Without You ou Fire in the Hole, entendu dans L'Arme Fatale 4. Pour une fois, le départ d'un chanteur chez Van Halen ne sera pas suivi d'un scandale. Mais le groupe, selon les rumeurs à l'époque, songe même à David Coverdale, qui refuse toute collaboration. Il a déjà connu la vie de groupe et avec le cartel Blackmoor. Et ça suffit comme ça. Après une pause de 4 ans, les affaires reprennent avec Sammy Hagar, qui revient, ambiance plus ou moins apaisée, pour un best-of, le best-of both sides. Après coup, Hagar repart à ses projets solo. Mais en 2006, on repart du retour de David Lee Roth. L'eau a certes coulé sous les ponts, et les Van Halen ont viré Michael Anthony pour donner la place de bassiste au fils d'Eddie, Wolfgang, qui joue aussi pour Mark Tremonti. C'est en 2012 que sort le nouvel album de Van Halen avec David Lee Roth, Different Kind of Truth, qui est un succès et prouve que Van Halen a encore plus d'un tour dans son sac. Même si aujourd'hui David Lee Roth estime que Van Halen c'est fini, Sammy Hagar a récemment déclaré qu'une reformation du line-up qu'il formait avec Michael Anthony n'était pas à exclure. On verra bien ce que ça pourra donner.
Ouais, c'est ouais. Aujourd'hui. C'est vrai, c'est très beau. Et,
tu sais, et en plus, j'ai bien envie de parler cinéma pour la prochaine fois. J'ai des petites idées comme d'habitude.
Libre à toi.
Et c'est depuis une année que je fais ma petite chronique. Mm-hmm. Donc pour le moment, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.
Ouais. Juste pour te dire encore, comme ça, avant de terminer, Gary Cherone, il a fait un gros boulot. Hein. Après, les fans n'ont pas aimé. Hein. Faut... Voilà, quoi.
Ouais.
Mais ouais, il a fait un gros boulot, Gary Cherone. Il me semble l'avoir vu en concert à Paris. Ouais, je crois que j'ai vu. Je crois qu'il est venu à Paris. Je me souviens de Sammy Hagar, oui, du show avec Sammy Hagar. J'ai vu. Enfin, j'ai vu avec Lee Roth. Attends, est-ce que j'ai vu avec Lee Roth? Non, j'ai vu David Lee Roth tout court. Oui, en donc en solo avec Steve Vai, effectivement, avec les frères Bissonnette. J'ai vu David Lerot avec Joey Holmes, l'ancien guitariste de Lizzie Borden. Oh, c'était fantastique. Voilà. Ensuite, oui, Van Halen avec Sammy Hagar et Van Halen avec Gary Sharon. J'ai plus le souvenir. Je sais plus. Alors là, je t'avouerai que j'ai pas le souvenir là. Mais il me semble l'avoir vu.
D'ailleurs, avant que Sammy Hagar ne rejoigne le groupe en 2003, il avait fait une tournée commune avec David Lee Roth. Comme quoi.
Oui, non, mais attends. Déjà, l'album 5150 avec Sammy Hagar, il est fantastique, cet album. Il est fantastique. Oh là 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 là. J'adore cet album. Juste un truc, il a pas été réédité. J'ignore pourquoi. Ouais. Il y a pas eu de réédition encore sur ce disque. Voilà quoi. Donc j'ignore. Mais en tout cas, ce disque, il est merveilleux quoi. Ouais, très beau disque.
Ça doit être un conflit. Ça peut être aussi un conflit entre les musiciens.
Hein. Ah, c'est possible. Ou label. Enfin, je sais pas. Aucune idée.
On a déjà entendu la dernière polémique concernant une réédition d'Animals de Pink Floyd. Et c'était une mésentente entre David Gilmour et Roger Waters qui bloquait le tout.
D'accord. Mais en tout cas, ce disque, je l'adore vraiment, quoi. Ça rappelle des grands souvenirs. En tout cas, le 5150. Ouais. D'ailleurs, il y a des vidéos comme ça où ils l'ont lancé au Whisky à Gogo, d'ailleurs. Rainbow ou Whisky à Gogo? Bonne question. Non, je crois que c'était au Rainbow Bar. Je sais plus. Il faut que je regarde les vidéos de YouTube où la rue, elle a été bloquée. Mais alors, il y avait énormément de monde et le lancement de cet album a été, je crois que tous les États-Unis ont entendu parler, quoi. C'était très fort, quoi. Très très fort, voilà. C'est très fort en tout cas, Van Halen quoi. Merci Budge en tout cas. Ce soir, le titre choisi, le titre que tu as choisi, c'est It's About Time.
Ouais, c'est un des titres qu'avait enregistré Sammy Hagar pour le Best of Both Worlds, pardon. Qui comporte trois chansons enregistrées avec Sammy Hagar lors de cette période en 2004, dont ce morceau-là.
Très moderne, très très moderne.
Très moderne et
qui envoie.
Qui résume très très bien la puissance du line-up avec Sammy Hagar.
Ouais, c'est très moderne et c'est à la fois très puissant quoi, et c'est très bon quoi. C'est ça le. Ouais. Le Van Halen, c'était Van Halen. 2006, 2004, 2006, c'est sorti
2004.
Ça 2004, ok. Ouais. Merci Butch, à la semaine prochaine. Tout de suite, continuons en musique sur la Web Rock Station, Vinny Times, le Classic Rock Radio. Van Halen, It's About Time, 213 Rock.